Aristote, Physique, traduction Jules Barthélemy Saint-Hilaire, livre premier, chapitre 9. Sommaire. Explication de l'erreur des anciens philosophes sur l'immobilité et l'unité de l'être. Distinction sur le sens des mots être et non-être. Autre explication par la distinction de l'acte et de la puissance. Paragraphe 1. Après ces développements, disons que cette théorie est déjà une manière de résoudre la question débattue par les anciens. Paragraphe 2. Les premiers philosophes, malgré leur amour pour la vérité et leur recherche sur la nature des choses, s'égarèrent, poussés en quelque sorte dans une autre voie par leur inexpérience. Et ils soutinrent que rien ne se produit et que rien ne périt, parce qu'il y a nécessité suivant eux que ce qui naît et se produit vienne de l'être ou du non-être, et qu'il y a, pour l'un et pour l'autre cas, égale impossibilité. Car d'abord, disent-ils, l'être ne devient pas puisqu'il est déjà. Et en second lieu, rien ne peut venir du néant, du non-être, puisqu'il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui serve de support. Paragraphe 3. Puis, aggravant encore les conséquences de ce système, ils ajoutaient que l'être ne peut pas être plusieurs, et ils ne reconnaissaient dans l'être que l'être seul. Paragraphe 4. Déjà, nous avons fait voir comment ils ont été amenés à cette opinion. Paragraphe 5. Mais à notre avis, entre ces diverses expressions, à savoir qu'une chose vient de l'être ou du non-être, ou bien que l'être ou le non-être fait ou souffre quelque chose, ou enfin que telle chose devient telle autre chose quelconque, il n'y a pas, en un certain sens, plus de différence que de dire ou que le médecin, par exemple, fait ou souffre telle chose, ou bien que de médecin, l'être devient ou est telle autre chose. Paragraphe 6. Mais comme cette dernière expression a un double sens, il est clair que celle-ci, à savoir que la chose vient de l'être et que l'être agit ou souffre, ont également deux acceptions. Paragraphe 7. Si en effet le médecin vient à construire une maison, ce n'est pas en tant que médecin qu'il construit, mais c'est en tant qu'architecte. S'il devient blanc, ce n'est pas davantage en tant que médecin, mais c'est en tant qu'il était noir. Tandis que s'il guérit ou s'il échoue en tentant la guérison d'une maladie, c'est en tant que médecin qu'il agit. Paragraphe 8. Mais comme on dit au sens propre, éminemment, que c'est le médecin qui fait quelque chose ou souffre quelque chose, ou devient quelque chose de médecin qu'il était, quand c'est en tant que médecin qu'il fait cette chose, ou qu'il la souffre, ou qu'il devient quelque chose. Il est clair que quand on dit qu'une chose vient du non-être, ou devient ce qu'elle n'était pas, c'est en tant que cette chose n'était pas ce qu'elle devient. Paragraphe 9. C'est parce que les philosophes n'ont pas fait cette distinction qu'ils se sont tant égarés. Et cette première erreur les a conduits jusqu'à soutenir cette absurdité que rien autre chose en dehors de l'être ne se produit ni n'existe, et jusqu'à nier toute génération des choses. Paragraphe 10. Nous aussi nous disons bien avec eux que rien ne peut absolument parlant venir du non-être. Mais nous admettons cependant que quelque chose peut venir du non-être, et par exemple indirectement et par accident. La chose vient alors de la privation qui en soi est le non-être, et elle devient ce qu'elle n'était pas. Du reste, cette proposition est faite pour étonner, et il semble toujours impossible que quoi que ce soit puisse même ainsi venir du non-être. Paragraphe 11. C'est encore de la même façon qu'il faut comprendre que l'être ne peut pas plus venir même de l'être que du non-être, si ce n'est par accident. Paragraphe 12. L'être vient de l'être absolument de la même manière que si l'on disait que de l'animal vient l'animal, aussi bien que de tel animal particulier vient tel animal particulier aussi. Et par exemple, si l'on disait qu'un chien vient d'un cheval. Le chien, alors, pourrait venir non seulement d'un certain animal, mais encore de l'animal en général. Mais ce ne serait pas en tant qu'animal qu'il en viendrait, puisqu'il est déjà animal lui-même. Quand un animal doit devenir animal autrement que par accident, ce n'est pas de l'animal en général qu'il vient. Et si c'est d'un être réel qu'il s'agit, il ne viendra ni de l'être ni du non-être. Car nous avons expliqué qu'on ne peut comprendre cette expression « venir du non-être » qu'en tant que la chose n'est pas ce qu'elle devient. Paragraphe 13. De cette façon, nous ne détruisons pas ce principe que toute chose doit être ou n'être pas. Paragraphe 14. Voilà donc une première manière de résoudre la question posée par les anciens philosophes. Paragraphe 15. Il y en a encore une autre qui consiste en ce qu'on peut parler des mêmes choses soit en tant que possible, soit en tant qu'actuel. Mais nous avons exposé cette théorie de la puissance et de l'acte avec plus de précision dans d'autres ouvrages. Paragraphe 16. En résumé, nous venons de résoudre, comme nous l'avions promis, les difficultés qui ont amené nécessairement les anciens philosophes à nier quelques-uns de nos principes. C'est aussi la même erreur qui les a tant écartés de la route où ils auraient pu comprendre la génération et la destruction des choses, en un mot, le changement. Et cette nature première, s'ils avaient su la voir, aurait suffi pour dissiper leur ignorance. Chapitre 10. Sommaire. Erreur de quelques autres philosophes qui, comme Parménide, admettant l'utilité de l'être, n'ont pas distingué dans cette unité l'acte de la puissance. Définition générale de la matière et de la forme. Fin de la théorie des principes de l'être, de leur nature et de leur nombre. Paragraphe. Il y a bien quelques autres philosophes qui ont touché à cette théorie de la nature première, mais ils ne l'ont pas fait d'une manière suffisante. Paragraphe 2. D'abord, ils reconnaissent avec nous que quelque chose peut venir absolument du non-être, et qu'en ceci, Parménide a toute raison. Paragraphe 3. Mais ensuite, ils prétendent que, la nature première étant une numériquement, elle ne doit également qu'être une en puissance. Or, c'est là une différence aussi énorme que possible. Paragraphe 4. Pour notre part, nous affirmons que la privation et la matière sont des choses très diverses, que la matière est le non-être par accident, tandis que la privation est le non-être en soi, et que la matière fort voisine de la substance est à certains égards substance elle-même, tandis que la privation ne l'est pas du tout. Paragraphe 5. Mais d'autres philosophes placent le non-être dans le grand et le petit indifféremment, soit en les réunissant tous les deux ensemble, soit en les prenant chacun séparément. Et par conséquent, cette manière qu'ils ont d'entendre la triade est absolument différente de celle qui vient d'être indiquée. En effet, ils sont bien allés jusqu'à ce point d'admettre comme nécessaire l'existence d'une nature qui doit servir de support. Mais ils ont supposé que cette nature est une. Et si quelque philosophe admet une dyade en la reconnaissant dans le grand et le petit, il n'en fait pas moins encore comme eux, puisqu'il oublie l'autre partie de l'être qui est la privation. Paragraphe 6. L'une de ces parties, en effet, qui demeure et subsiste, concourt avec la forme pour produire, comme une mère, tous les phénomènes qui adviennent. Mais quant à l'autre partie de l'opposition des contraires, elle pourrait, bien plus d'une fois, faire l'effet de ne point exister du tout pour celui qui ne regarderait en elle que son côté destructif. Paragraphe 7. En effet, comme il y a dans les choses un élément divin, excellent et désirable, nous disons que l'un de nos deux principes est contraire à cet élément, tandis que l'autre est fait par sa propre nature pour rechercher et désirer cet élément divin. Mais dans les théories que nous combattons, il arrive que le contraire désire sa propre destruction. Cependant, il est à la fois impossible et que la forme se désire elle-même parce qu'elle n'a aucune défectuosité et que le contraire la désire puisque les contraires se détruisent mutuellement. Mais c'est là précisément le rôle de la matière. Et elle est comme la femelle qui désire devenir mâle ou le lait qui veut devenir beau. Car la matière n'est pas le lait en soi. Elle n'est laide que par accident. Elle n'est pas non plus femelle en soi, elle ne l'est qu'accidentellement. Paragraphe 8. Dans un sens, la matière périt et naît, et dans un autre sens, elle ne naît ni ne périt. Ce qui périt en elle, c'est la privation. Mais en puissance, elle ne naît ni ne périt en soi. Loin de là, il y a nécessité qu'elle soit impérissable et incréée. En effet, si elle naissait, il faudrait qu'il y eût antérieurement un sujet originaire d'où elle pût venir. Mais c'est là justement sa nature propre. Et alors, la matière existerait avant même de naître, car j'appelle matière ce sujet primitif qui est le support de chaque chose et d'où vient originairement, et non par accident, la chose qui en sort. Si l'on dit que la matière peut périr, elle rentrera en elle-même puisqu'elle est le terme extrême, et il s'ensuivrait que la matière aurait péri avant même de périr. Paragraphe 9. Quant au principe particulier de la forme, c'est le devoir de la philosophie première de déterminer avec précision si ce principe est unique ou multiple et d'étudier la nature de ce principe spécial ou de ces principes s'il y en a plusieurs. Nous reverrons donc pour cette occasion la théorie que nous ne faisons qu'indiquer ici et nous nous réservons seulement de parler des formes naturelles et périssables dans les démonstrations qui vont suivre. Paragraphe 10. En résumé, nous nous sommes bornés jusqu'à présent à établir qu'il y a des principes. Nous en avons déterminé la nature et le nombre. Abordons à cette heure une autre théorie en prenant un autre point de départ. Fin du premier volume de la physique d'Aristote.